Jojo 3.0, tous les vendredis, de 17h à 17h30, du gaming, du sport, des nouvelles technologies, sur BLP Radio. Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, en compagnie de Jojo 3.0, l'émission du vendredi comme d'habitude. Je suis en compagnie de Quentin.
Bonne année Jojo.
Bonne année à toi Quentin. Et aujourd'hui, nous allons parler des adaptations de jeux vidéo en film, ou l'inverse, donc petit sujet tranquille pour débuter l'année.
C'est ça, donc soit des films qui sont tirés de jeux vidéo, ou quelquefois l'inverse, c'est arrivé.
Quelquefois l'inverse, exactement. Et en deuxième partie, on se fera l'histoire de la musique dans le jeu vidéo, donc on va parler un petit peu de définition, ce qui s'est passé jusqu'à nos jours.
Et puis en dernière partie, il y avait un coup de cœur hein, que tu n'avais pas trop pu développer dans une dernière émission.
Exactement, ça sera Ring of Elysium. Jojo 3.0.
Alors, film et jeux vidéo, Jojo, t'as fait tes petites recherches, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
Alors, je vais commencer par le plus gros des jeux qui est encore actuellement assez mondial, Warcraft. Warcraft, le célèbre jeu, le MMORPG de Blizzard, qui a sorti un film en mai 2016, donc Warcraft, le commencement. Donc, film qui reprend un petit peu les basiques, je dirais, de Warcraft, avec les célèbres cartes, on a l'habitude de ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo, avec une assez grosse bataille, pour pas trop spoiler, et une histoire qui est assez convaincante à mes yeux.
Ouais, toi, tu avais bien aimé, toi, le film ?
Le film, je l'ai bien aimé, franchement. Après, au vu des notes, quand on voit la note des spectateurs, qui est à peu près de 4,3 sur 5 via Allociné, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Ouais, par contre, la presse était beaucoup plus critique. Hein.
Beaucoup plus critique, oui, avec un 2,8, parce qu'ils trouvaient que, tout simplement, le film n'était pas adapté pour être mis en film. Le jeu n'était pas adapté pour être mis en film.
Ok. Donc ça, c'était Warcraft en 2016. En 2014, on a eu aussi la sortie d'un des grands héros du film, du comic, de plein de trucs, Batman.
C'est ça, Batman Assault on Arkham, donc sorti en 2014. Pareil, ça reprend un petit peu l'histoire du jeu vidéo, mais avec pas mal de scènes coupées, ce qui est vraiment dommage. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir pour le film, donc ça reste assez encore regardable aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais par rapport au jeu, je conseille plus de jouer que de regarder le film, de mon point de vue personnel.
Ouais, alors autant Warcraft, c'est quelque chose qui vient vraiment du jeu vidéo pour s'adapter en film. Batman, voilà. C'est un peu plus différent, ça vient du comic à la base, il me semble.
C'est ça, exactement. Ça vient du comic à la base, qui a été mis en jeu vidéo et après mis en film.
Ouais, donc, il y a eu des dessins animés aussi.
Il y a eu des dessins animés, il y a des séries aussi. Donc voilà. Moi, pour ce film-là, moi, j'ai pas trop aimé. D'ailleurs, la note des spectateurs, elle est de 3,7. Donc c'est que c'est mitigé. Et côté presse, je crois que c'était 4, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était 4, si je dis pas de bêtises. Donc la presse avait bien apprécié là-dessus. Donc voilà.
Alors un jeu de bagarre maintenant, sûrement le jeu de bagarre le plus célèbre, Street Fighter.
Street Fighter 2, un très très bon film pour moi, étonnamment, qui est sorti en 2013, donc ça remonte un petit peu. C'est pas comme le jeu, c'est-à-dire qu'on va pas voir que des bagarres, que de la baston. C'est vraiment une histoire, on s'accroche vite aux personnages et c'est assez prenant. Donc... je vais pas trop non plus vous spoiler si vous souhaitez voir le film, parce que honnêtement c'est à regarder. Moi c'est ce que je conseille. Côté note des spectateurs, on est sur du 3,7, donc je pense que ça a été un bon film là-dessus. Donc voilà à peu près de ce que j'ai à dire sur Street Fighter.
On va passer maintenant vers le côté horrifique, horreur, avec Resident Evil.
Resident Evil, oui, sorti en 2012, donc c'est la suite en fait d'un film qui s'appelait déjà Resident Evil des générations, qui est sorti bien avant, qui se concentre sur le héros qu'on a l'habitude d'avoir dans le jeu vidéo. Et c'est le même concept, hein, on est un petit peu dans une ville abandonnée, il y a pas mal de monstres un peu partout, et puis le héros essaye de s'en sortir, tout simplement.
Ouais, alors sauf que moi, ce que je trouvais qui faisait la force des premiers Resident Evil, hein, je parle sur PS1,
oui.
C'était le côté où on est dedans, le côté les temps de chargement et tout.
C'est ça.
Voilà, est-ce que c'est retranscrit ça dans le film ?
Pas vraiment. Non, on l'a au tout début, mais après ça s'enchaîne très très vite et on est plus vers un film d'action vers la fin, plutôt que le côté suspense qu'on a comme dans les premiers Resident Evil, justement.
Très bien. Alors, ensuite, tu voulais aborder quelques films qui sortiront prochainement. Oui. Il y avait Professeur Layton, c'est ça ?
Professeur Layton, donc le célèbre jeu DS où, où justement, bah, c'est un professeur qui doit résoudre pas mal d'énigmes. Donc, à voir, je pense que ça risque d'être intéressant en film, à regarder.
Ok. Alors, il y a aussi la série Assassin's Creed qui va sortir un film.
Qui vont sortir un film. Alors, le problème, c'est sur quel Assassin's Creed ils vont le sortir et surtout comment ça va se passer. Parce qu'on sait que le jeu est très très linéaire, c'est un jeu assez couloir. Donc, je sais pas ce que ça va donner pour le film. Je suis assez réticent de mon côté pour ce film-là.
Ouais, puis aussi quel univers ils vont choisir. En plus, on sait que les Assassin's Creed, il y a deux studios, un majeur qui bosse dessus, donc ont pas forcément les mêmes
les mêmes idées, les mêmes attentes. Donc à voir ce que ça va donner.
Alors, il y avait aussi l'inverse, le côté inverse. Du coup, un jeu vidéo qui est tiré d'un film, un vieux film d'ailleurs.
Alors, je vais commencer par le plus vieux film, je dirais, de l'histoire, Battle Royale. Donc le célèbre Battle Royale qui est sorti en 2001, donc film d'horreur, mais d'horreur d'avant, hein, de l'ancienne horreur, je vais appeler ça, donc pas moderne. Un film que je conseille, bon, c'est pour du 16 ans et plus, donc si vous avez une âme sensible, ne le regardez pas. Mais c'est un film que je conseille qui a été tiré par les célèbres jeux, pour en citer que deux, Fortnite et PUBG, donc Players Know, qui est le même principe, mais avec un côté humoristique sur le film. Très bon film.
Très très bon film en effet, Battle Royale. Et puis des films un peu plus récents qui gravitent autour du jeu vidéo, il y avait notamment Pixels.
Pixels, un très bon film qui résume l'histoire du jeu vidéo en, je dirais, à peu près deux heures. Donc c'est assez pas mal, ça énonce pas mal de thèmes qu'on a évoqués dans l'émission, notamment la triche, notamment le côté fair play, notamment... Enfin, pas mal de sujets qu'on a traités, donc c'est un film à regarder qui résume vraiment l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est un film que je conseille, sorti en 2015, très très bon film.
Et alors moi j'avais vu quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver, je sais plus si c'était Mortal Kombat ou Street Fighter ou un jeu de combat comme ça, où en fait c'est à la base tiré d'une licence de jeu vidéo, il y a eu un film qui est sorti, et il y a eu un jeu vidéo qui a été tiré du film. Je retrouverai ça, je vous donnerai l'info dans les autres, dans les prochaines émissions. C'était... Ah oui, non, tu voulais terminer, par Dofus, du coup.
Alors, je voulais terminer par Dofus. Juste avant de parler de Dofus, petit aparté sur Ready Player One que je conseille, ouais. Film qui est sorti en mars de cette année, enfin de l'année dernière, pardon, donc 2018, je ne suis pas encore calé. Très bon film qui est inspiré du futur avec la VR et tous ses dangers. Donc, c'est un film vraiment que je conseille à regarder en famille ou avec les amis. C'est le meilleur pour moi, actuellement.
Très bien, et donc Dofus.
Voilà, Dofus. Alors Dofus, parce que c'est le jeu de mon enfance pour ma part. Donc c'est ce qui concurrençait Warcraft, donc MMORPG, mais en tour par tour, un personnage, mais on joue en tour par tour au niveau des combats. Film qui est sorti en 2016, une histoire très très top, franchement, à conseiller pour tout public. Enfin, même les enfants peuvent le regarder. C'est ça fait partie un petit peu comme une petite magie de Noël, je dirais. C'est vraiment un film que je conseille.
Ouais, alors Dofus, pour ceux qui connaissent pas, c'était le RPG, mais le côté un peu gentillet du RPG.
C'est ça, il est toujours gentillet à l'heure actuelle, pas de sang, pas de ce genre de choses, c'est vraiment tout gentil, tout mignon.
Très bien, très bien. Petite pause musicale, Jojo.
Petite pause musicale, et puis on va retourner un petit peu dans le passé, on va s'écouter la petite bande son originale de Dofus, 1.29. Thank you.
Alors, la musique dans le jeu vidéo, vaste histoire, hein, on pourrait y passer 10 émissions à en parler, mais la petite histoire et définition de la musique dans le jeu vidéo, Jojo.
Alors, la petite histoire, la petite définition. Alors, la musique dans le jeu vidéo est avant tout une bande son, donc c'est un morceau musical qui est composé pour un jeu vidéo. Donc c'est apparu dans les années 70 avec une réputation, je dirais, de sous-musique, donc vraiment un fond qu'il fallait. Et la qualité en fait de musique, aujourd'hui, elle se rapproche, je trouve, vraiment des films par rapport à ce qu'on a connu à la base.
Ouais, alors ce qui est étonnant, c'est que même les compositeurs japonais qui, à l'heure actuelle, sont réputés, les mecs qui ont fait les Chrono Trigger, les mecs qui ont fait les bandes-son, les vraiment célèbres, en fait, eux t'expliquent qu'à l'époque, non, ils faisaient de la musique limite au maître. Voilà, c'était vraiment de la sous-musique. Hein.
Exactement, tandis qu'aujourd'hui, il y a même des concerts qui sont joués, notamment au Japon, où... beaucoup de gens vont les voir juste pour ce genre de musique qui est vraiment très proche d'un film, quoi.
Ouais, avec des orchestres symphoniques et tout.
Exactement. Je vais parler d'ailleurs de deux petits compositeurs comme ça, Nobuo Umatsu, pardon, et Koji Kondo, qui se sont fait un grand nom. Ce sont les deux plus gros connus de la musique du jeu vidéo. Alors, petite différence, on va parler de la musique du jeu vidéo toujours. Elle date d'avant le 21e siècle, donc c'est considéré maintenant comme un genre musical à part entière, parce que à la base, il s'agit d'une musique qui a été programmée dans un premier temps, à la différence de la musique enregistrée en studio ou jouée en direct, comme c'était fait à l'époque. Les supports sur lesquels ils étaient stockés les jeux vidéo, en fait, ne permettaient pas à l'époque de mettre des musiques assez, je dirais, fort en sauvegarde, vu que c'était des disquettes. Et aujourd'hui, maintenant, on peut contenir de la musique assez grande sur des sons déjà préenregistrés, notamment sur des CD, voire sur des clés USB. Est-ce que tu avais une petite particularité technique là-dessus ?
Non, donc en effet, ouais, à la base, c'était sur des disquettes ou des cartouches. D'ailleurs, à propos de cartouches, on peut peut-être s'écouter un premier petit extrait ?
Ouais, un petit extrait mythique. On se fait du Tetris ?
Allez, c'est parti.
C'était la BO de Tetris qu'on venait d'écouter et tu avais des petites précisions par rapport à l'ordinateur.
Ouais, alors on disait c'est une musique qui est réinterprétée à chaque fois. En fait, faut imaginer que dans la cartouche, c'est comme s'il y avait une partition. Et à chaque fois qu'on joue le jeu, et ben la partition est rejouée par une petite puce qu'il y a dans la console ou dans l'ordinateur, qu'on appelle un chipset. D'où le nom qui viendra un peu plus tard, Chiptune, qui représente un peu toutes les musiques de jeux vidéo.
Et cette musique, il me semblait qu'elle était indéfiniment, en fait, elle était toujours en continu.
Alors, ça dépend, boucles, mais oui, en règle générale, voilà, ça, c'est souvent des boucles, ouais.
C'était souvent des boucles. Donc, du coup, on va faire une petite partie évolution. Petite partie évolution, ça te dit ?
Ouais.
Donc, elle a évolué justement vers la fin des années 90 grâce aux fameux CD-ROM comme support de jeux vidéo, donc support de stockage beaucoup plus grand. J'imagine.
Bah, on l'a vu, hein, à l'arrivée de la PlayStation, où on a eu le droit à des vraies bandes-son sur des jeux, hein, puisque là, on n'était plus obligé de stocker juste de la partition de petite taille, mais on pouvait stocker des vrais sons, des vraies pistes CD sur un CD de PlayStation. Quoi.
D'accord, comme notamment, je dirais, un petit Sonic à s'écouter rapidement, comme ça.
Alors Sonic, c'était un petit peu avant, mais bon, allez, on peut s'écouter un petit Sonic pour le plaisir.
C'est parti.
La BO du jeu à l'instant, et donc tu voulais nous parler des BO de jeu.
Oui, les BO de jeu qui sont très difficiles à récupérer, je dirais, en Europe, parce que justement, elles sont refaites du fait qu'ils n'ont pas les droits, tout simplement, donc par rapport au Japon, où justement c'est des vrais orchestres qui jouent, où comme on disait tout à l'heure, on a des concerts, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les vraies bandes-son en Europe.
Ouais, et puis même au Japon, hein, on va dans l'équivalent des Fnac ou des magasins de disques, il y a des rayons entiers musique de jeux vidéo, hein, c'est un vrai marché quoi.
Exactement, il y a des albums qui sortent exprès pour, ils font même des musiques de jeux vidéo qui ne sont pas dans les jeux vidéo officiels. C'est vraiment des choses à part entière, c'est des bandes son vraiment qui sont en plus.
Et donc il y a des joueurs qui ont un peu la nostalgie de ces anciennes bandes son et qui ont essayé de recréer un petit peu le son des anciennes consoles. Tu peux nous en parler ?
Donc oui, c'est le côté chiptune que tu disais justement tout à l'heure. Donc ce sont plein de petites machines qu'on va connecter pour faire simple. Donc ça peut être des Game Boy, ça peut être des anciennes consoles, ça peut être tout ce qui est son PC. Et ils arrivent à recréer en fait des musiques connues, par exemple soit d'aujourd'hui, soit même rétro, mais à l'ancienne. Donc avec le fameux 8-bit, les versions vraiment à l'ancienne, avec je dirais le côté un petit peu dégueulasse, le côté crachant de la musique, mais c'est ce qui fait tout son charme justement des anciennes musiques.
Ouais, on peut parler par exemple de musique plus récente comme je pense à Faster Than Light, FTL, qui a une BO justement qui sonne à la fois très récente mais qui sonne aussi orientée très chiptune avec ce genre de son synthétique des puces de console.
Je vous propose d'écouter Pokémon version rouge et bleu.
De la BO de Pokémon Rouge Bleu à l'instant, et tu voulais nous parler des formats un petit peu particuliers des constructeurs, je vois.
Exactement, alors c'est pas des constructeurs, c'est le format, je dirais, des hackers qui ont mis en point un petit stratagème, donc le format SPC qui veut dire Sound Processing Core, qui permet par exemple l'émulation en fait des processeurs, donc SPC 700 qui seraient par exemple intégrés à la Super Nintendo. Donc tout simplement ça permet je dirais de recréer les musiques originales, donc ce qui est une véritable aubaine non seulement pour les fans et pour je dirais les hackers qui puissent retranscrire cette petite musique.
Ouais, c'est à la fois pour le côté nostalgique et puis intéressant au niveau de la bidouille.
Exactement. Je vous propose d'écouter un petit Street Fighter 2, le Guile Theme.
Le thème de Guile, c'est parti. Thème de Guile à l'instant sur la BO de Street Fighter. Alors bah pour conclure ce rapide tour d'horizon sur les musiques de jeux vidéo, toi qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Jean-Claude ?
Alors pour conclure rapidement, ce que je vais vous dire c'est qu'on a commencé tout d'abord par la machine 8 bits et les puces sonores donc vers les années 70. Donc comme je disais, la musique était stockée de manière analogique. Ensuite, on a eu le petit échantillonnage avec le traitement du signal grâce aux premiers ordinateurs qui arrivaient un peu plus tard, entre les années 80 et 90. Ce qui convertissait en fait des musiques en 4 convertisseurs numériques et analogiques de 8 bits chacun, ce qui a fait les fameux 32 bits qui ont été reconvertis par les sons 8 bits.
Voilà.
Ça fait beaucoup de bits.
C'est ça. Et puis ce qu'on peut noter aussi, hein, c'est que globalement, à l'époque, il y avait en gros une boucle de 10 secondes qui tournait pendant tout le jeu. Aujourd'hui, on est arrivé à des bandes-sons qui sont vraiment énormes, avec une interactivité folle, toutes les actions qui vont influer sur le son qu'on entend, les instruments qui vont se rajouter au fur et à mesure de la progression dans le chapitre, etc. Voilà, on a fait des grands progrès.
Merci Quentin, je vous propose tout de suite d'écouter Station Earth Star Caller.
De Station Earth à l'instant sur BLP Radio. Et donc Jojo, pour ta dernière partie, tu voulais revenir sur un coup de cœur, hein, que tu avais
parlé rapidement, très rapidement.
Ça.
C'était un petit peu compliqué, on était un peu court sur le temps, mais là je vais pouvoir en parler en détail. C'est Ring of Elysium, donc un Battle Royale, donc les jeux à la mode actuellement. Donc je vous avais parlé la dernière fois du mode traître, que je vais un peu plus parler en détail parce qu'il n'est pas sorti à l'heure actuelle où je vous parle, et il sortira courant février. Donc pourquoi je vous parle de ce mode là en particulier, pas du jeu en lui-même, parce que le jeu tout le monde connaît maintenant, je dirais, les Battle Royale. Donc on est là chassant sur une carte par équipe, ou tout seul ou par deux, et le but c'est d'arriver à la fin, donc d'être le premier, d'avoir tué tout le monde sur la carte. Donc ce mode traître, en fait, il a l'avantage, je l'ai testé en avant-première, donc je dirais en version alpha, vraiment une pré-alpha, où en fait on est lâché par équipe de 3, et toutes les, je dirais, toutes les 3-4 minutes, ça change d'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à 3, on commence à monter une squad avec les amis qu'on a, et au bout de 3 minutes, ce sont nos ennemis. Donc, c'est justement le mode traître qui rajoute le piquant en plus de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur un Battle Royale classique.
Alors, ça se passe comment? C'est d'un coup d'un seul, hop, 3, 2, 1, la personne qui était à côté de toi devient ton ennemi?
Non, c'est pas comme ça. On a une sorte de petite chanson qui a atterri 30 secondes avant dans nos oreilles, qui signale que dans 30 secondes à peu près, on sera plus amis.
D'accord, petit compte à rebours.
Ouais, on a un petit compte à rebours en fait pour s'écarter et jouer un petit peu en solo, je dirais, pendant 30 secondes et se cacher. Et au bout des 30 secondes, les ennemis qu'on avait deviennent amis ou inversement, ou des fois ça change pas pour tout le monde. En fait, tout dépend, c'est fait vraiment de façon aléatoire. Et je vais même parler d'une petite chose rapidement en détail, où je me retrouvais en fait à du 3 contre 3 sur une bataille. Et lors de ce fameux changement, je me suis retrouvé 1 contre 5. Donc je me suis fait laminer parce que j'ai trouvé le jeu injuste, mais ça fait partie du jeu. Donc je trouve que c'est vraiment le côté amusant de la chose. Après voilà, il faut qu'il travaille l'équilibrage, il faut qu'il travaille pas mal de choses là-dessus, mais c'est vraiment en développement.
Donc ça, c'est un petit peu la petite feature spéciale qui sortira en février.
C'est ça.
Pour ce qui est déjà jouable à l'heure actuelle, toi, selon toi, quels sont les atouts un peu par rapport aux concurrents que sont PUBG, Fortnite?
Alors les atouts qu'on a, c'est que la map déjà est beaucoup plus grande. Donc carte assez grande par rapport à un Fortnite ou un PUBG. Donc on a vraiment le temps de chercher des armes, de vraiment s'équiper, de vraiment se cacher et proposer des stratégies. Donc la différence d'un Fortnite, évidemment, il n'y a pas de construction. Mm-hmm. Par contre, tous les bâtiments sont peut être détruits. Ouais. Tous, sans exception, si on a la bonne grenade ou le bazooka, ou on a ce qu'il faut, tout peut être détruit. Donc c'est vraiment un côté avantageux. Utilisation des véhicules aussi. Donc qu'on n'a pas dans tous les Battle Royale. Donc vu que la carte est grande, ça permet. Et puis bon, on a les fameux airdrops comme d'habitude qui arrivent aléatoirement. Donc après, c'est du classique.
Niveau graphisme, musique, habillage un petit peu?
Alors musique, il y en a très très peu. C'est vraiment que pour les menus, il n'y en a pas vraiment dans le jeu parce que justement on essaie de se concentrer pour entendre le moindre bruit. Côté graphisme, on est sur du graphisme poussé. Donc un peu mieux Counter-Strike, je dirais, mais un peu moins bien que Battlefield. Donc pour vous situer, donc ça serait un petit peu entre les deux. Et côté jouabilité, en fait c'est très facile à prendre en main. On peut jouer à la manette comme au clavier souris, et c'est un jeu pour l'instant exclusivement PC. On n'a pas dit donc
exclusivement PC, donc on rappelle hein, c'est gratuit,
disponible sur Steam ou sur le site officiel du jeu, donc vous pouvez le télécharger comme bon vous semble.
Donc n'hésitez pas, recommandé par Jojo.
Voilà, c'était tout pour cette émission. Merci Quentin.
Eh bien, merci, de rien.
Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Jojo 3.0, tous les vendredis, de 17h à 17h30, du gaming, du sport, des nouvelles technologies, sur PLP Radio.